Oui, c'est bien moi, Eric. Le prochain qui fait une remarque sur ma nouvelle coupe de cheveux. Genre, il y a eu du vent cette semaine. Il sera excommunié. Bon, bref, on continue sur dans notre série sur la Genèse. Le livre du commencement, le premier livre de la Bible. En hébreu, Bereshit, ça veut dire... C'est le titre de ce livre. Ça veut dire le commencement, la genèse de toute chose. Et nous avons déjà vu la création, Genèse 1 et 2, avec cette phrase « Et voici, tout était très bon dans la création, mais tout ne le reste pas, puisque au chapitre 3, c'est la rupture avec le Dieu de la vie. » Parce que Adam et Ève, représentants d'humanité, ont succombé à la tentation d'être comme des dieux, à la place de Dieu. Et puis, ensuite, le déluge, Genèse 6 à 9, avec ce jugement de Dieu sur la terre, mais aussi cet arc-en-ciel en signe d'alliance renouvelée entre Dieu et les hommes. Ensuite, la tour de Babel, ce récit un petit peu bizarroïde de cette tour de Babel construite parce que les hommes veulent se faire un nom avec le péché d'orgueil. Et nous avons vu après les promesses de Dieu, la foi d'Abraham, et qui répond aux promesses de Dieu, qui se lève et qui part, qui quitte sa famille et qui part sur la simple déclaration des promesses de Dieu. Il le fait. Et puis sa foi qui est testée à Abraham, avec le sacrifice heureusement raté ou manqué ou substitué, on va dire, d'Isaac. Alors ce sont des histoires connues ou mal connues, méconnues, pardon, mais qui nous parlent toutes de l'action de Dieu en faveur des hommes, et ce, malgré leur révolte, malgré leur faiblesse, malgré leur rébellion. Et cette action de Dieu en faveur des hommes, c'est ce qui s'appelle la grâce. La grâce de Dieu. L'action de Dieu en faveur des hommes dans son amour ou sa fidélité. Et avec Abraham, on a vu toute la question de la foi, un exemple de la foi, enfin quelqu'un pas tout à fait exemplaire dans tous les domaines. Mais avec lui, nous sommes rentrés dans ces personnages qu'on appelle les patriarches. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance ou refaire connaissance avec un deuxième patriarche. Alors, son histoire commence comme dans une télé-réalité. C'est une famille un peu compliquée, un père permissif, voire absent, une mère qui cherche à contrôler, un frère aîné toujours en vadrouille, et lui, le fils cadet, un petit peu manipulateur. Alors ça ressemble à n'importe quelle famille, n'est-ce pas? Et comme quoi la Bible nous parle de réalité et n'idéalise jamais l'humain. Alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, Isaac le père, un peu transparent quand même. Hein, Rebecca, la mère, est effectivement en plein contrôle, voire dominatrice. Et Ésaü, le frère, il faut bien le dire, est un peu le type du gars qui ne pense qu'à la chasse, la pêche et les traditions. Il semble un petit peu brut de décoffrage, Ésaü, et ça c'est la famille de Jacob, qui n'est pas mal non plus dans son genre. Et Jacob, dès sa naissance, au chapitre 25 de la Genèse, montre un petit peu son caractère, il accroche le talon de son frère jumeau qui était sorti en premier. Il y a, dès sa naissance, un problème, on appelle ça un problème congénital, qui le poursuivra toute sa vie. Jacob, c'est un homme qui cherche à supplanter, à usurper, à tromper. Et d'ailleurs, le mot « Jacob » veut dire à la fois la racine verbale en hébreu du mot « Jacob » veut dire à la fois « talon », comme le talon d'Ésaü que Jacob a tenu dès sa naissance, mais aussi trompeur. Et Jacob va chercher à tromper son monde. Il va tromper son frère avec ce légendaire plat de lentilles. Ésaü revient de la chasse, il a faim, et Jacob lui propose d'échanger contre un plat de lentilles son droit d'aînesse. Et Ésaü lui donne tranquillement le fameux plat de lentilles. Ensuite, il va tromper son père, justement, pour obtenir la bénédiction. Il va mentir sur son identité avec un aplomb incroyable. Il va se déguiser en Ésaü. Enfin, Rebecca va le déguiser en Ésaü. Et il va mentir sur son identité et Isaac, qui ne voit plus grand-chose, lui demande plusieurs fois « C'est bien toi, Ésaü ?» Et Isaac va répondre « Oui, c'est bien moi. » Faut de l'aplomb, hein. Il y a usurpation d'identité, piratage de la page Facebook. Ça peut coûter très cher aujourd'hui, mais pour Jacob, ça semble être « a way of life », un mode de vie, tromper son monde. Et puis après, il va tromper son oncle, Laban, dans une sombre histoire de brebis et de manipulation génétique, faux et usage de faux, abus de biens familiaux. Et Jacob a l'audace de dire à la fin « L'Éternel m'a donné un grand troupeau », alors que c'est lui, pendant la nuit, qui fait du micmac chimique ou biologique, on ne sait trop, pour avoir le plus grand troupeau possible et pour tromper Laban et pour avoir Rachel, sa fille. Un fantastique comédien. Et on se demande si, pour finir, il ne va pas croire lui-même à sa propre tromperie, qu'il va devenir son propre rôle de trompeur. Et on voit chez Jacob, tout est faux. Regardez Jacob avec en haut le plat de lentilles, à gauche, la tromperie par rapport à son père, puis les différentes facettes, la souffrance. Un autre petit dessin, là, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Et on voit qu'Ésaü, il est genre hein, chasse et pêche, hein, là, un peu brut, bien viril, bien basique. Et puis, dans l'autre, je l'aime bien, celle-là, et on voit le petit air sournois là, de Jacob, et encore la brute de décoffrage là, d'Ésaü. Il y a pourtant un petit verset au début de son histoire où, après avoir menti sur son identité auprès du père, il va commencer à fuir la vengeance d'Ésaü, parce que Ésaü quand même va réagir. Il s'est fait prendre non seulement son droit d'aînesse, mais la bénédiction de son père, de la famille sur lui. Jacob lui a tout pris. Alors il le poursuit, il veut le tuer. Et Ésaü fuit et il va rencontrer une jolie et jeune femme, une bergère. Et il l'embrasse, ce qui semble tout à fait normal dans l'histoire, mais il ne fait pas que l'embrasser, il va se mettre à sangloter dans ses bras. Et l'histoire ne nous dit pas pourquoi il sanglote, fatigue peut-être, mais on peut penser aussi, et on peut penser sérieusement, qu'il est en train de craquer ou que sa faille apparaisse. Ses failles apparaissent, ou que le masque du trompeur se fissure un peu, devient lourd à porter, et que l'amour lui fait tomber le masque et laisse apparaître la faille. Jacob sanglote dans les bras d'une jeune femme. Alors c'est beau, c'est légèrement romantique. Mais Jacob continue la comédie quand même. Tricheur, usurpateur, fourbe, retors. Et c'est ce que son nom veut dire. Comme si son destin de trompeur était tracé. Il est désespérément ce que son nom veut dire. Mais évidemment, ce genre de comportement a ses conséquences, et ses conséquences, ce sont les conflits. Il est en conflit avec son frère, il est en conflit avec son père, il sera en conflit avec son oncle, il y aura des conflits entre ces deux femmes, Rachel et Léa. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit ? Eh bien, on fuit. Mais le problème, c'est quand on fuit un conflit et qu'on ne change pas son comportement, là où on va, on crée de nouveaux conflits. Et c'est l'histoire de Jacob. Un homme en fuite, un homme en conflit. Pourtant, il est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Sa mère le sait, et lui aussi, il doit savoir qu'il est porteur des promesses de Dieu, que la bénédiction de Dieu repose sur lui. Mais bizarrement, cela ne semble pas lui faire un grand effet. Il semble que chez Jacob, le charnel ou l'humain l'emporte régulièrement sur le spirituel. Il semble qu'il y ait en lui un autre conflit que ceux qu'il provoque autour de lui, un conflit plus intérieur, celui peut-être du vieil homme ou de l'homme tout seul, de l'homme sans Dieu et de l'homme renouvelé par Dieu. Et le problème est celui de la grâce. J'ai lu un livre qui s'intitule sur Jacob, qui s'intitule « Les démêlés d'un homme, non pas avec la justice, mais avec la grâce ». Et Jacob a des démêlés avec la grâce. Ça veut dire qu'il a du mal à admettre que Dieu pose un regard favorable sur sa vie. Que Dieu veut agir dans sa vie. Il a du mal à accepter le choix de Dieu sur sa vie, sur sa personne et sur sa vie. Et il a du mal à accepter de vivre une dépendance constante par rapport à Dieu. Jacob est très loin de tout cela et de Dieu. Et il préfère manifestement s'en sortir tout seul, utiliser des trucs, des tactiques, des stratagèmes et des mensonges pour arriver à ses fins, quels que soient les moyens et quels que soient les dégâts occasionnés ou les conflits occasionnés. Ouais, il y a peut-être des promesses sur ma vie. Il y a peut-être un Dieu de grâce, mais c'est à moi de provoquer le destin. Un type qui veut se faire tout seul. A self-made man. Ça, c'est Jacob. Et une autre maxime pourrait convenir pour Jacob, aide-toi et le ciel t'aidera éventuellement. Mais aide-toi toi-même. S'il est là, s'il s'occupe vraiment des hommes, ce qui reste à prouver, il t'aidera. Mais d'abord, aide-toi toi-même, fais-toi toi-même. Et on peut se poser la question pour Jacob, que peut-on faire avec un garçon comme cela, qui dès la naissance montre des signes d'un comportement dangereux pour la société et pour lui-même? Comment Jacob, avec ce bagage si lourd, va-t-il pouvoir devenir utile dans l'histoire du salut, dans l'histoire de Dieu, et même dans sa propre histoire, dans ses relations avec les autres? Et on se pose la question de savoir si on n'est pas avec Jacob devant un cas désespéré, comme on le rencontre parfois. Ou peut-être pensons-nous que nous sommes soi-même un cas désespéré. Moi, il m'arrive de désespérer de moi-même. Est-ce que je vais finir par changer? Ou bien Oda? Il me semble que nous sommes parfois des cas désespérés comme Jacob, et la question qui se pose n'est pas la question du désespoir, mais celle du changement. Y a-t-il un changement possible? Dieu va-t-il, ou Jacob va-t-il changer? Dieu veut-il et va-t-il changer Jacob? Et la réponse est oui, trois fois oui, parce que le Dieu de la grâce, c'est pas seulement le Dieu, c'est pas seulement une grâce, un regard favorable sur la personne, mais aussi une grâce transformante qui change en profondeur l'individu qui s'ouvre à cette grâce de Dieu et qui la reçoit. Qui reçoit, qui se laisse regarder de ce regard favorable. Oui, Dieu nous change et veut nous changer. Et pour Jacob, on peut discerner deux temps forts dans sa vie qui sont des temps de changement importants. Alors on ne va pas se poser la question à quel moment Jacob s'est converti, ce serait anachronique de parler de la conversion de Jacob, mais on le voit changer. Et à deux grands moments, et on va parler d'un de ces moments ce matin et la semaine prochaine, si vous êtes là, ce sera le deuxième grand moment. Ne ratez pas le deuxième épisode de la saga de Jacob. Ah oui, j'ai passé maître en communication maintenant. Moi. Et donc le premier de ces virages, de ces changements, survient quand Jacob est en fuite. Il fuit Ésaü, qui veut le supprimer, puisqu'il lui a tout pris. Et Jacob fuit pour aller loin chez un membre de la famille. Il a déjà parcouru une centaine de kilomètres quand même. Il est fatigué et il s'endort la tête sur une pierre et il se met à rêver le fameux rêve de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est un film. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un film avec ce titre. Une échelle ou un escalier, comme dans les ziggourats mésopotamiennes. Vous savez, ces maisons, on en a parlé lors de la tour de Babel, dans l'empire mésopotamien. Il y avait ces maisons à escalier. En tout cas, quelque chose qui monte et qui signifie que Dieu est accessible. Et, bon, il devait y avoir une autre image, mais ce n'est pas grave, que Dieu est accessible. Que Dieu, par l'intermédiaire de ses anges ou ses messagers, est en affaire avec le monde et en particulier avec toi, Jacob. J'ai une affaire avec toi, j'ai une relation à mener avec toi. Pour Jacob, c'est le ciel qui s'ouvre. Et on va lire ensemble au chapitre 28. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Et ce n'est pas rien. Dieu est en train de renouveler l'alliance qu'il a faite avec Abraham et avec Isaac à Jacob. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les nations de la terre seront bénies. » Ça nous rappelle Abraham. Hein. « Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta, « Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz, Saint-Sauveur. Puis il fit le vœu suivant. « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. Et ce qui est remarquable dans ce passage, c'est de se rendre compte que Jacob ne cherche pas à rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, c'était probablement la dernière chose à laquelle Jacob pensait. Il ne pensait qu'à fuir son frère et à mettre des kilomètres entre eux. Et il ne pensait qu'à ce qui pouvait l'attendre chez le frère de sa mère, chez son oncle. Et Dieu vient faire irruption dans le monde fermé de Jacob. Dieu ouvre son monde à Jacob, quand bien même le monde de Jacob était cloisonné. Et Jacob fait une expérience déterminante dans sa vie, faite de trucages et de tactiques et de faux-semblants. Il fait l'expérience de la grâce de Dieu, de ce regard favorable que Dieu pose sur lui, de ce choix de Dieu sur lui, de cette bénédiction de Dieu sur lui. Et ça, c'est la grâce. Comme le dit le prophète Ésaïe, j'aurais dû mettre ce verset d'Ésaïe sur l'écran, mais il ne l'est pas, mais je vous le lis, Ésaïe 65, verset 1. « Je me suis laissé consulter, c'est Dieu qui parle, par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » C'est sûr qu'autre part, dans la Bible, il est dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et on l'a chanté tout à l'heure. Mais ici, il n'est pas question même de recherche préalable de l'homme. Dieu se révèle gracieusement. Il ouvre son ciel à des gens qui ne cherchent pas à s'ouvrir à Dieu. Waouh ! C'est un peu troublant, mais c'est tellement sécurisant de savoir que Dieu n'a pas besoin de ma recherche pour m'ouvrir le ciel, pour me toucher par sa grâce. Et ça, c'est une expérience forte. Que d'être touché par la grâce vous change un homme et cela change les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Et on ne peut pas manquer de voir, par rapport à cette échelle, que Jésus va s'identifier lui-même à l'échelle de Jacob. Jean 1, 51, « Et Jésus ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Il est l'échelle de Jacob. C'est en lui, Jésus, par lui que le ciel s'ouvre, que l'accès à Dieu est ouvert, que Dieu nous touche de sa grâce. Quand Jésus meurt, le voile du temple est déchiré, le voile qui séparait le saint au saint des saints est déchiré. En Jésus-Christ, nous avons accès à Dieu. Et c'est en Christ Jésus que nos tactiques, nos trucs pour nous en sortir tout seuls, notre débrouillardise légendaire, s'écroule, s'efface, comme la tour de Babel où on dit « oui, je viens », touché par la grâce. Quelqu'un parlait de l'attraction formidable de la grâce. Comme vous avez joué tous, autant que vous êtes, je crois, quand vous étudiez la physique sur votre cahier de sciences naturelles, avec l'aimant qu'on vous avait donné à l'école et toutes les trombones que vous avez dispersées sur votre page. Et toutes les trombones qui viennent s'ajouter. Ils viennent se coller à l'aimant de la grâce. L'attraction formidable de la grâce. La grâce de Dieu attire tout ce qu'il y a autour, toutes les fibres de mon être, au plus profond, sont touchées, attirées par la grâce, comme elle a touché Jacob, qui du coup construit un petit hôtel avec A-U, et à qui il donnera le nom de Bethel. Et Bethel, ça veut dire... Ah oui, c'était là les images. Alors ça, c'est un escalier d'égout, hein, il me semble. L'échelle de Jacob, voilà, avec une peinture de Chagall, avec cette échelle qui vient dans la ville, là. Et Bethel, lieu de la rencontre. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que lui, Jacob, l'humain, trop humain, le charnel, le self-made man, qui ne parlait jamais de Dieu auparavant, va dire assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi je l'ignorais. Puis il va ajouter, ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et c'est vraiment un tournant dans la vie de Jacob, une rencontre qui change beaucoup de choses dans sa tête de sournois. Et autre signe de changement, pour la première fois, Jacob envisage que le Dieu de son père et de son grand-père soit aussi son Dieu. En Genèse 27, en parlant à son père Isaac, il lui dit « L'Éternel, ton Dieu !» Le Dieu de ta maison, ton Dieu. Mais en 28, il dit « Mon Dieu !» Le passage d'une relation à Dieu par procuration, par famille, à une relation personnelle avec le Dieu vivant. Pas mon père, pas ma sœur, pas mon frère, mais c'est moi qui me tiens là-devant comme le gospel. Hein. « Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in need of prayer. » C'est pas mon frère, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est moi qui me tiens devant toi dans ta maison, Bethel. Un passage peut-être qui pourrait nous faire penser aux enfants issus de familles chrétiennes et ce moment crucial où la foi passe de la confiance que l'on fait à ses parents en matière de foi à une foi vécue et assumée personnellement. Et c'est un passage toujours un petit peu délicat quand l'adolescent passe de la foi de ses parents à une foi personnelle. Aux parents, de donner des ailes, les ailes de la foi, à leurs enfants pour qu'ils passent à une foi personnelle. Et donc on peut dire qu'à Bethel, Jacob passe à une foi d'adulte. Mais il reste du chemin encore pour Jacob. Des petits, je ne sais pas si vous l'avez saisi tout à l'heure, il pose des conditions. Si je reviens de cette histoire sain et sauf, si, et ces petits si font un petit peu tâche dans l'histoire quand même. Hein. Alors bien sûr, il veut donner le dixième de ses biens, mais il y a plein de si, comme si il commençait à négocier, comme si, chassé de naturel, il revient au galop et Jacob continue dans son histoire de « bon, si, on va négocier ». Comme s'il cherchait à tromper Dieu. Et donc, comme le dit le commentaire de la semeur, il faudra bien d'autres événements pour ramener Jacob à changer. Et cet autre événement, nous le verrons dimanche prochain. Mais pour l'instant, j'aimerais retenir deux ou trois choses, même trois, qui pourraient nous être utiles. Trois réflexions jacobiennes. J'allais dire jacobistes, mais c'est un autre sens, hein, jacobienne. Donc de Jacob, que cette histoire de Jacob pourrait nous suggérer. Et la première, c'est que Dieu ne désespère jamais de nous. Je ne suis pas un cas désespéré pour Dieu. J'ai beau avoir des pensées tordues, j'ai beau avoir des comportements bizarres, j'ai beau avoir une histoire familiale chargée, plombée même, je ne suis pas un cas désespéré pour Dieu. Il vient me toucher par sa grâce. Il vient pour me renouveler. Il peut le faire. Il va le faire. Et donc, si je ne suis pas un cas désespéré pour Dieu, nous ne devons pas désespérer de nous-mêmes. Si je m'arrêtais là, ce serait un petit peu de la psychologie à trois balles, genre une thérapie un peu facile. Je ne dois pas désespérer de moi-même. Comme disait Danny Boom, je vais bien, je vais bien. Non, il s'agit effectivement de ne pas désespérer de nous-mêmes, mais de laisser Dieu nous changer. Il nous faut cesser de fuir, d'arrêter notre fuite en avant, à la manière de Jacob, et nous laisser changer par Dieu, laisser tomber nos petits trucs et mécanismes de défense. Et on pourrait utiliser le mot à la mode aussi, un deuxième à la mode, du lâcher prise. sur notre désir de tout contrôler dans notre vie et d'utiliser tous les moyens les plus retors pour arriver à nos fins, pour justifier nous-mêmes notre existence et nous laisser changer par Dieu. Parce que c'est son projet pour chacun d'entre nous qui s'appelle, excusez-moi de ce mot un petit peu, la sanctification. Nous sommes, qui veut dire devenir saints, c'est ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, saints, nous avons été sanctifiés à la croix du Christ et par sa résurrection, et maintenant nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà, la sanctification. Et je redis cette phrase que j'ai déjà utilisée, « Dieu nous aime assez pour nous accueillir tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. » Et Dieu veut nous changer. Dieu veut te changer et me changer pour nous faire devenir un petit peu plus à son image. Mais il nous faut savoir que le changement est douloureux. La croissance peut faire mal. Mes études de kiné qui remontent il y a, je n'ose même plus dire à quand ça remonte, on parlait du genou Osgood, et qui n'est pas good du tout. Le genou Osgood, c'est pour les adolescents qui grandissent très vite. Les os grandissent, mais pas les tendons. Alors ça fait mal. La croissance fait mal. Le changement est douloureux. J'ai vu des enfants, des jeunes qui devaient arrêter leur carrière de foot pendant 2 ans à cause du genou Osgood. Et Jacob va grandir, Jacob va changer, mais ça va lui faire mal. Je me demandais si nous étions toujours prêts à cela, si j'étais toujours prêt à ça. Nous ne devons pas désespérer de nous-mêmes et nous laisser changer par Dieu et nous ne devons pas désespérer des autres non plus. On a parlé du regard que Dieu pose sur nous, mais il y a aussi le regard que nous posons sur les autres et sur l'autre, sur le prochain. Et ce regard-là, m'excusez si je me trompe, mais c'est souvent un regard de jugement. « Oh, celui-là, il est vraiment trop loin. Oh, celui-là, il est vraiment trop tordu. Oh, celui-là, il est vraiment trop méchant. Oh, celui-là, il est vraiment trop égoïste. » Et on le fait souvent avec des gens qui nous sont proches. Je parlais avec une dame il y a quelques temps, quelques semaines, qui me disait tout le mal qu'elle pensait de ses enfants, de ses propres enfants. Il n'y en avait pas un pour racheter l'autre. Et comme elle les décrivait, c'était réellement des cas désespérés. Alors, c'était certainement pas des enfants de cœur, mais ils semblaient condamnés à rester ce qu'ils étaient dans le regard de leur mère. Et je ne veux pas juger cette mère qui a certainement ses raisons et ses histoires, comme on en a tous, mais comme elle, on a vite fait de mettre des gens dans des catégories, des boîtes où on les condamne à rester. Mais Jésus, dans cette comparaison bien connue, nous dit de ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre avant d'enlever la poutre qui est dans notre œil. Et cette poutre, c'est la poutre du jugement, de la condamnation que je porte sur cette personne et qui la condamne à jamais et qui fait d'elle un cas désespéré. Si Dieu n'a pas désespéré de Jacob, s'il ne désespère pas de moi, il ne désespère pas non plus de ceux qui m'entourent. Et c'est à moi de me mettre au diapason de Dieu dans mon regard sur les autres. Et la prière du Notre Père le dit, Jésus nous enseigne à dire, il fait le parallèle entre le pardon de Dieu et le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Vous vous en souvenez? Eh bien, comme Dieu ne désespère jamais de nous, nous devons, nous voulons ne pas désespérer des autres. Bien au contraire, on veut les bénir. Dire du bien des autres. Et j'aimerais prêcher un jour là-dessus, parce que j'ai entendu quelques phrases qui m'ont frappé là-dessus, de la puissance de la bénédiction, de dire du bien, de donner sa bénédiction. Et pour rester dans cette dynamique de l'espérance et de la grâce, et en conclusion, je propose de faire comme Jacob, ériger une stèle virtuelle, ou dans notre cœur, ou un cairn qui signale, qui indique, qui rappelle que Dieu est présent dans nos vies et qui nous touche de sa grâce, et y revenir quand on se perd dans des chemins de traverse, dans des raccourcis qui ne mènent nulle part. Comme Jacob va le faire, vous savez, après avoir érigé la, la stèle à Bethel, quelques mois, quelques années plus tard, va, quand le moment sera critique, il va revenir à Bethel. Revenir à la maison de Dieu, revenir là où Dieu l'a touché. Et j'aime cette image du cairn qui indique la route en montagne. Et quand on s'est perdu, on revient au dernier cairn qui nous signale, qui nous indique, qui nous rappelle que malgré nos égarements, Dieu ne désespère jamais de nous. Amen.